Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. On avait vu récemment que le nucléaire n'était pas une fatalité. On a vu les moyens de faire de l'électricité, enfin d'utiliser de l'énergie, de trouver de l'énergie et de la transformer éventuellement dans notre monde impitoyable. Et je vais continuer à vous présenter les conclusions que l'association des éditions Utopia a présenté sous le titre de « Idées reçues et scénarios de sortie sur le nucléaire ». Alors vous en avez déjà eu quelques morceaux et voici quasiment la conclusion. Alors moi j'ai appelé ça « Par ici la sortie ». Et voilà ce que nous disent les associations Global Chance, Negawatt et Utopia. La plupart des partis ou responsables politiques qui se sont prononcés pour une sortie du nucléaire ont imaginé un scénario progressif sur une vingtaine d'années. On peut rêver plus rapide, sans prétendre pour autant que ce soit facile. La décision doit être prise au plus près des populations concernées. Il n'y a pas de démocratie si on déconnecte les choix politiques de ceux qui devront les respecter. Ces choix peuvent être faits à l'échelle d'une région ou d'un bassin énergétique, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, en Bretagne et ailleurs. Les associations qui se regroupent sous la banderole Virage Énergie mettent ces principes en action. Et sortir du nucléaire peut être l'occasion d'activer un autre système de gestion démocratique de l'énergie, contrairement aux méthodes de l'ère atomique que nous connaissons. Mais seule la loi et les élus du peuple pourront acter la sortie du nucléaire de notre pays. Ce qui demandera des consultations locales spécifiques de chaque région, donc, pour d'autres modes et moyens de production d'énergie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, on peut leur exposer les différentes possibilités et leur demander de choisir. Cette décision s'appliquera avec un plan rigoureux de transition énergétique débattu et mis au point localement. Une relocalisation progressive de la production et de la distribution d'électricité tendra vers l'autonomie, en prévoyant des systèmes de solidarité entre les régions. C'est-à-dire que la région où il y a un grand barrage, la région où il y a une grande quantité d'éoliennes, ben ces régions-là pourront manifester leur solidarité avec celles où il n'y a pas de possibilité de production énergétique. Le risque colossal, malheureusement vérifié, impliquerait une sortie rapide de l'ère nucléaire pour arrêter la probabilité de la catastrophe. Un accident majeur à proximité d'une zone très dense de population désorganiserait complètement le pays. Imaginons les conséquences d'un tel accident à Nogent-sur-Seine, en amont de la dizaine de millions d'habitants de la région parisienne. Vous êtes bien sur Canal Sud et c'est Contre-Histoire. Aujourd'hui encore, aucun plan n'a été étudié en France pour y faire face, ni pour Paris, ni pour ailleurs. André Gorz a évoqué une sortie barbare et non civilisée, consécutive à un accident de ce type. Sauf qui peut, bestial, fin de civilisation, en effet. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Et tout gouvernement digne de ce nom a le devoir et l'obligation morale de prévoir la sortie du nucléaire avant que ce soit le nucléaire qui ne nous sorte de la civilisation. Après plus de 50 ans de course à l'abîme nucléaire, on n'a toujours pas trouvé le moyen de se débarrasser des déchets dont les sites arrivent à la saturation totale, en particulier celui de La Hague. Seule la sortie du nucléaire peut nous donner le délai de réflexion et de recherche vitale. La politique macronienne a paralysé la recherche et le développement des énergies renouvelables. La sortie du nucléaire peut dynamiser les efforts du renouveau énergétique, comme toujours en cas de crise aiguë, qui stimule les découvertes et les productivités. L'état lamentable du parc nucléaire français contraint déjà EDF à rouvrir les centrales à charbon, alors que les centrales au gaz ne fonctionnent pas à plein régime. Il ne s'agit là que de pratiques transitoires, mais c'est bien l'occasion de découvrir les solutions de rechange immédiates, auxquelles s'ajoute l'évidence de l'arrêt des exportations. En 2023, il était prévu d'exporter 90 TWh. Mais il y a peu de chances qu'on y arrive. Hein. Vous avez vu toutes les centrales qui sont arrêtées, toutes les découvertes que l'on fait de fissures, de pollutions diverses et avariées. Alors c'était prévu, mais c'était réalisable, bien sûr, vu les pannes à répétition de nos centrales. Mais ce sont ces prévisions, jugées prioritaires, qui ont justifié les décisions d'Emmanuel Macron de multiplier les EPR et autres joujoux nucléaires pour assurer nos contrats. Ces contrats à lui, hein, pas les nôtres. La SNCF investit dans les réouvertures des anciennes lignes abandonnées, promettant de substantielles économies d'électricité et de gaz à effet de serre, après des décennies de gabegie dans le train à grande vitesse. Dans nos villes et nos campagnes, si on compte encore les panneaux photovoltaïques sur les toits, On ne compte plus depuis longtemps les caissons de pompe à chaleur et les doubles vitrages. On dirait que ce qui ne dépend pas du gouvernement, ça avance pas mal. Subvention ou pas. On dirait bien que les citoyens s'activent. La Covid a démontré que l'hyperconsommation d'énergie n'était pas une fatalité, que le télétravail a économisé bien des transports individuels, coûteux, fatigants et inutiles. Ce qui entraîne une baisse de la demande en électricité, si bienvenue quand nos centrales bégayent, entre fissures et baisse des nappes phréatiques indispensables. Le scénario négawatt a évalué en 2011 les économies d'énergie possibles à 30% par rapport aux consommations d'alors. Merci d'écouter Contre-Histoire. Et c'est encore et toujours les informations indispensables sur le nucléaire. On appelle ça par ici la sortie du nucléaire. Économie possible de 30%? Ça se vérifie, car si le nucléaire produisait 1300 TWh en 2005, il n'en produisait plus que 1000 en 2020. Information issue de gouv.fr, ministère de la Transition écologique. Et on ne peut pas dire qu'on ait vraiment souffert, même si on a beaucoup crié au loup. Vous pouvez ranger vos calculettes. Ça fait plus de 23% de réduction du nucléaire en 15 ans. Et production toute énergie confondue, en 2015, on a produit 1620 TWh et en 2020, 1400, soit plus de 13,5% de réduction en 5 ans. Tout ça en raison notamment de l'efficacité énergétique gagnée depuis, en isolation, en sobriété, etc., qui font qu'avec 1 kW, on fait fonctionner plus de systèmes moins gourmands qu'au temps passé du tout électrique. Quand on sait que le nucléaire produit dans le monde moins de 5% de l'énergie consommée sur la planète, on se demande où est le problème français, à part dans les rêves mégalos, pour ne pas dire dictatoriaux, de nos dirigeants successifs. Et n'oublions pas que tout réacteur nucléaire gaspille en renvoyant dans l'eau de refroidissement ou dans l'atmosphère, gaspille donc plus de 60% de la chaleur qu'il fabrique, en bouleversant l'écosystème et en aggravant le réchauffement climatique. Au fou ! Et notons que les énergies renouvelables, si maltraitées par Macron, ont pourtant produit en France 183 TWh en 2022, soit 19% de toute notre production, toute énergie confondue. Et puis, en Occitanie, on consomme de l'énergie renouvelable pour plus de 45% de nos besoins. Oui, absolument. Vous êtes bien sur Canal Sud. Après la dénonciation des mauvaises idées reçues que nous avons vues en décembre, la conclusion s'impose en forme de question. Pourquoi tant de risques et des déchets quasi éternels pour ce qui ne représente que moins de 5% de l'énergie finale mondiale et qui ne permet d'économiser que peu de CO2, après avoir ruiné les budgets nationaux grâce à Areva et aux projets faramineux genre EPR. Quelle qu'en soit la cause, naturelle, humaine, attentats, guerre, etc., les accidents sont bien plus nombreux qu'on ne pense. Car les États ne laissent pas passer l'information. Et quand ils ne peuvent pas faire autrement, elle est de la qualité de cette déclaration bien française. Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Et les caractères de la malédiction nucléaire demeurent accrochés à cette modernité. La gestion infinie des déchets, héritage empoisonné que nous laissons aux générations futures, pour prix de notre confort aveugle et de notre crédulité. La confusion des risques nucléaires civils et militaires, avec les risques de prolifération non maîtrisables. C'est la fameuse histoire du nucléaire iranien. On peut revoir ou réécouter les émissions d'une femme contre l'État dans quelques vieux contre-histoires. La lourdeur technique et économique du nucléaire, qui ne peut être géré que de façon centralisée et autoritaire. Son extrême dangerosité exigeant la pratique du secret. Évidemment, on ne va pas laisser se promener les mots de passe pour entrer dans les centrales nucléaires, les techniques de mise en route de la centrale, dans les bureaux, dans les salles des machines, etc. Donc, ça exige la pratique du secret et un système de contrôle permanent qui paralyse notre créativité et notre libre arbitre. Cerise sur le gâteau. Normalement, toute entreprise industrielle est assurée pour les dommages que son activité pourrait causer à autrui. Qu'en serait-il pour le nucléaire? Un accident de type Fukushima, bien que celui-ci soit loin d'être achevé, est estimé par la banque Merrill Lynch à 91 milliards de dollars. Pour le seul coût des dommages qui pourraient être réclamés par les victimes, hors des coûts pour la collectivité. Le président du Centre japonais de recherche économique, Kasumasa Iwata, estime ce coût à près de 175 milliards d'euros. Il y a 80 000 personnes concernées, soit environ 2 millions d'euros par personne. Ce montant serait sans doute beaucoup plus élevé par habitant pour la Côte d'Azur, l'Île-de-France, Lyon ou la vallée du Rhône. Hein. Notre sublime Côte d'Azur et les terres à céréales de l'Île-de-France, la vallée du Rhône, son industrie et son Beaujolais, Peut-on estimer les conséquences d'une catastrophe d'ampleur de Tchernobyl à proximité de zones très peuplées, à Nogent, comme on disait, Nogent sur Seine, au Tricastin, en Provence et en Côte d'Azur? Il faut chiffrer les pertes et indemnisations sur 30 ans. Imaginez le coût de la reconstruction. En utilisant la carte des impacts autour de Tchernobyl, l'ensemble des dommages va se situer, selon l'endroit, dans une fourchette comprise entre 2 000 à 8 000 milliards d'euros. Alors que la responsabilité de l'exploitant est limitée par la loi française à 91 millions d'euros. Au-delà de cette obligation juridique, l'auto-assurance d'EDF est une vue de l'esprit, étant donné que l'EDF est en déficit chronique de plus en plus affolant, ses fonds propres ne représentent qu'au plus 5% des dommages à couvrir. L'État français serait-il l'assureur en dernier ressort ? Il a limité sa responsabilité obligatoire par la loi et la Convention de Bruxelles. 210 millions d'euros et la solidarité européenne, 300 millions d'euros. Pourrait-on aller au-delà? C'est impossible. Le sinistre représente entre le double et le triple de sa dette actuelle. Et qui prêterait de telles sommes à un État face à un tel problème? En fait, personne ne serait indemnisé au-delà des sommes minimes de secours immédiat. Des millions de gens, outre les graves accidents de santé, devraient faire face à une ruine totale et émigrer pour beaucoup d'entre eux, car la France elle-même n'a pas fait face à de tels déplacements de population permanente depuis des siècles et encore. C'est 10 fois la migration des Français d'Algérie qui s'est opérée sur une métropole parfaitement apte à les recevoir. Quel serait le coût d'une telle assurance ? Le montant estimé par les Suisses, d'un dommage pour leur propre centrale, est de 4 000 milliards d'euros. Cela correspondrait à une hypothèse basse, optimiste, pour la France, et dans le cas de Chinon, Buget, Nogent ou Tricastin, un montant double serait un minimum. La prime annuelle d'assurance hors profit et marge serait donc comprise entre 24 et 48 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe EDF est de l'ordre de 60 milliards. Rapporté au kilowattheure, la prime médiane ressort entre 6 et 12 centimes du kilowatt. En tout état de cause, il s'agit là d'un exercice virtuel, car aucun consortium d'assurance au monde n'est en mesure de couvrir des risques de ce niveau. Et c'est bien pour ça que la responsabilité civile de l'opérateur comme celle de l'État sont limitées. Pourtant, rouler sans assurance, c'est de la délinquance pour un jeune sur une mob, pas pour une grande industrie modèle de la France, qui, avec le support d'une très large partie de la classe politique, peut s'exempter des devoirs qu'elle exige de ses citoyens, ceux qu'elle réprime sans faiblesse. C'est donc l'ensemble de la population française qui prend ce risque sanitaire et économique de ruine personnelle, le plus souvent insurmontable, et garante d'une grande pauvreté à venir, de maladies graves, longues, douloureuses, voire mortelles, de souffrances affectives devant l'état de ses proches, et enfin d'impuissance probable à surmonter une telle épreuve. Qu'une telle situation apparaisse en temps de guerre fait l'objet d'une réprobation universelle. Pourquoi faudrait-il alors, en temps de paix et de prospérité, prendre un risque similaire ? les soi-disant avantages du nucléaire ne tiennent pas en regard des risques et des coûts bien réels. La société nucléaire se révèle pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'exigence de la soumission à un modèle de société productiviste, centralisé, pyramidal, qui met la consommation au service de la production, dans la logique du toujours plus, absolument incompatible avec l'écologie. Ce qui se vérifie dans les systèmes totalitaires, URSS hier et Chine aujourd'hui, et hélas dans les sociétés hyper centralisées comme notre douce France, ou encore comme le Japon. C'est contre-histoire. Merci d'écouter Canal Sud. Il n'est hélas plus possible de sortir complètement du nucléaire, étant donné les déchets et installations que nous laissons à nos descendants. Mais nous pouvons décider d'arrêter la production électrique atomique. C'est de notre responsabilité. Et si la France le faisait ? France, pays le plus nucléarisé au monde. Bien d'autres pays nous emboîteraient le pas sur le chemin de l'écologie et de la sobriété apaisée. Il sera d'ailleurs beaucoup plus facile au reste du monde d'arrêter ces centrales nucléaires qu'à nous, qui avons laissé nos dirigeants les multiplier comme des petits pains. Mais pourtant, les derniers chiffres de notre économie post-Covid rendent plutôt optimistes. Ces réflexions et ces chiffres si significatifs nous viennent du ministère de l'écologie, de Global Chance et de Negawatt, grâce aux éditions Utopia. Cela nous permet de rappeler les axes fondamentaux de la philosophie écologiste qu'Utopia transmet scrupuleusement dans ses diffusions. Je vous lis donc cette synthèse simple et évidente. Dans un contexte de sortie du nucléaire et de réduction des gaz à effet de serre, on peut espérer démocratiquement la mise en œuvre d'une politique post-capitaliste et anti-productiviste pour accompagner la transition et renforcer son impact sur le système économique. Ainsi, axe 1, gratuité de l'usage. Surtaxation du gaspillage, qu'on appelle aussi mésusage, et nouvelles normes de durabilité. La gratuité des premières tranches d'électricité et de télécommunications serait couplée à l'instauration d'une forte taxation du mésusage ou de la surconsommation, notamment par les entreprises. La fin de l'obsolescence programmée, ainsi que la mise en place de nouvelles normes de durabilité ou de garantie, si vous préférez, des produits, seraient imposées avant toute mise sur le marché. Et je précise en passant que la gratuité de l'usage de quelque chose d'indispensable, ça existe déjà. Dans mon village, on a la gratuité de l'eau jusqu'à 20 mètres cubes par an. Après, c'est vrai que l'eau devient un peu chère. Mais enfin, 20 mètres cubes, personnellement, j'y arrive pas. Axe 2. Nouveau rapport à la consommation et à la croissance. Une politique globale de lutte contre la société de consommation serait instaurée. Mise en place d'un revenu universel. Accès pour tous aux droits fondamentaux. Extension de la sphère de gratuité. Nouvelle réduction du temps de travail. Nouveaux indicateurs de richesse débattus à tous les niveaux, portant entre autres sur la réduction de l'empreinte écologique. Ces indicateurs permettront également de modifier nos priorités en matière d'investissement et de production, et notre approche de ce qu'est la véritable richesse d'une société. Axe 3. Relocalisation de la production industrielle et agricole et changement du modèle agricole. Des mesures favorisant une production de biens industriels et agricoles ancrés sur les territoires seront mises en place. Les aides à l'agriculture seront en totalité réorientées vers une agriculture non polluante, de qualité et orientée vers la demande intérieure. S'il est très difficile de chiffrer précisément l'impact de ces trois orientations, on peut tout de même imaginer qu'il sera significatif et qu'au minimum, elles permettront d'atteindre les objectifs ambitieux de sobriété et d'efficacité. On pourra donc s'engager dans une reconversion et une gestion durable de l'énergie, qui vont s'étendre sur une longue période, avec une forte diversification des sources et une décentralisation des productions et des stockages. Cette situation nouvelle nécessitera un pilotage public global, national et décentralisé en même temps, et un contrôle qui devra s'exercer dans la plus grande transparence à tous les échelons géographiques et de responsabilité. Pour éviter erreurs passées et pressions de lobbies, il faudra pouvoir s'assurer d'expertises contradictoires. Des institutions non gouvernementales, notamment, auront un rôle de vigie, d'enquête et d'information en toute indépendance. Cette mission étant garantie et en partie financée par la puissance publique. Des règles fortes protégeront les lanceurs d'alerte.
La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la science, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père? La misère, c'est la flamme qui mène le peuple à la victoire.
Ça, ce sont de vrais lendemains qui chantent. Parce que ça nous changerait bien la vie. Après tout, la plupart des pays, y compris dits développés et bénéficiant d'un bon confort énergétique, n'ont pas recours à cette énergie nucléaire. Il existe de nombreuses autres manières de produire de l'électricité, ainsi que des scénarios alternatifs, comme on a vu. Oui, nous pouvons aussi, en France, décider d'arrêter le nucléaire sans tomber dans la pénurie électrique ni augmenter le prix de cette énergie, et même réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette décision doit s'accompagner de mesures d'urgence, comme l'arrêt des projets en cours et la fermeture des centrales les plus anciennes ou dangereuses. Une remise à plat de notre politique énergétique, des mesures d'accompagnement fortes pendant la phase de transition, les changements de certains comportements individuels et collectifs nécessitent une denrée rare, une denrée très rare, qui s'appelle le courage politique.
Je connais des catégories de gens qui luttent pour que la vie cesse pour le peuple d'être un tourment en 81, année noire où le gaz, le sel se font rare. Discutons d'idéologie, évitons les acrobaties. Les questions de changement d'Haïti devraient se faire au prix du sang, au prix d'une bonne révolution. La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la science, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père? La misère, c'est la flamme qui mène un peuple à la victoire. Je sais que j'aurai des comptes à rendre dans ce tribunal qu'est la vie. Quand je disais ce que je voulais, s'agissait-il de positions que je prenais pour mon plaisir? Faut croire que j'idéologise, pour le peuple ça ne veut rien dire. Faudrait pas trop que je m'abuse en me faisant juge des moins manants. Faudrait maintenant que je sois conscient. La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la science, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père? La misère, c'est la flamme qui mène un peuple à la victoire. Pour connaître le paysan, on devrait prendre le chemin. Avec lui au lever du jour, revenir la nuit fatigué en fredonnant ses beaux refrains. Mais c'est le contraire qui se produit. On parle pour lui, on l'expertise. On se porte garant de tous ses mots sans avoir jamais fait le tour de ses problèmes de tous les jours. La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la science, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père? La misère, c'est la flamme qui mène un peuple à la victoire. La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la science, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père? La misère, c'est la flamme qui mène un peuple à la victoire.
Ce qu'une décision politique a fait, une autre décision politique peut le défaire. Faisons tout ce qui est démocratiquement possible pour qu'en France ce soit acquis avant qu'un accident majeur ne nous contraigne à le décider dans l'improvisation et la précipitation, avec des conséquences irréversibles humaines et sur l'écosystème. Chaque parti ou organisation doit réfléchir à ce que pourrait être le plus rapidement possible et soumettre ses propositions au débat démocratique. Si on nous laisse encore la possibilité d'avoir un débat démocratique. Merci de votre écoute. À la semaine prochaine et prenez soin de vous.
Dans la
chante des députés, on appelle au dialogue de sourds, et ça chante et ça caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.